Merci. Le psaume 51. C'est le psaume que David a écrit lorsque le prophète Nathan, nous dit le premier verset, vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Voilà un homme pieux, un homme de Dieu, un homme qui connaît le Seigneur, un homme qui a marché étroitement avec Dieu, un homme qui a commis l'adultère, qui a pris la femme d'un autre, et depuis à peu près un an, ne marche plus avec Dieu. Les vrais chrétiens peuvent faire de grands péchés. Et ils peuvent pécher non seulement gravement, mais longuement. Mais le psaume nous raconte la prière de restauration du meurtrier, de l'adultère, de l'homme de Dieu qui était devenu l'homme loin de Dieu et qui est redevenu l'homme de Dieu. C'est incroyable. Ce psaume a été souvent appelé le guide du pécheur. Il a été lu plus que la plupart des psaumes dans les églises chrétiennes. Et il est d'une importance capitale pour nous parce que nous péchons. Pensez-vous que vous êtes différent de David? Je ne le suis pas. J'ai eu dans ma vie des moments où j'ai péché gravement et longuement. Et la gloire que vous allez donner à Dieu et la qualité de votre vie spirituelle dépend en grande partie de ceci. Est-ce que vous savez que faire avec vos péchés? Pas les petits, les grands et les longs. Parce que la bonne nouvelle, c'est que nous avons un sauveur qui est infiniment grand que tout ce que nous pouvons faire. C'est ça le message de ce psaume. Et le guide du pécheur, donné par David, va nous montrer comment faire. Nous avons déjà étudié deux fois la première partie du psaume. Nous arrivons à au troisième message. Dans le premier message, nous avons considéré les versets 1 à 8. Et je vais vous les lire, mais je vais vous dire juste la grande chose qui est là. C'est la partie de la confession de David, dans les versets 1 à 8. Et là, nous avons le portrait de quelqu'un qui ne cache plus rien. Dieu l'a amené, peut-être il t'a amené souvent, il t'amènera à dire que maintenant je veux tout savoir, je veux comprendre mon péché tel que Dieu. Et il avoue, il fait l'aveu. Et il ne dit pas j'ai fait ça, mais c'était hors de caractère. Il dit c'est mon caractère. Quand j'ai tué, quand j'ai commis l'adultère, c'est David qui est sorti. Quand tu commences à parler comme ça, là, le pardon est tout prêt. Donc, nous allons lire ça. Vous allez voir pour vous-même combien David, maintenant, confesse. Verset 3. Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance, selon ta grande compassion, efface mes crimes. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes crimes. Et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait le mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans la faute. La faute n'est pas un accident pour moi, c'est mon caractère. C'est ma nature. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu prends plaisir à la vérité dans le fond du cœur. Au plus secret de moi-même, fais-moi connaître la sagesse. Ça, c'était la première fois. La deuxième fois, nous avons étudié les versets 9 à 11, où David demande le pardon. Et nous avons appris que lorsque toi et moi, nous péchons, la première chose qui doit nous préoccuper, ce n'est pas le fait de changer. On ne vient pas à Dieu en disant, Seigneur, je vais plus faire ça, aide-moi à ne plus le faire. C'est jouer de la divinité de Dieu lui-même. C'est bafouer Dieu. La première chose, c'est de chercher non pas à être différent dans l'avenir, la première chose, c'est de chercher que Dieu soit indemnisé pour ce que nous avons déjà fait. C'est demander le pardon d'abord et pas le changement. Sinon, nous détruisons l'évangile. Quand on va dans un cours de justice, on focalise sur quoi? Pourquoi est-ce qu'on amène l'accusé? C'est pour parler de sa vie future? Non. C'est pour parler d'une chose, le passé. Ce qu'il a fait doit être réglé d'abord, parce qu'il y a des victimes. Lorsque nous pensons à notre changement, nous parlons en tant qu'hommes égoïstes, pécheurs, remplis de justice de soi, qui ne pensent qu'à nous et ce que nous serons. Il y a une victime qui doit être réparée. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Et il faut que Dieu, de sa manière, qui lui satisfait, s'occupe de ce que nous avons fait par le sang de Christ et nous accorde le pardon pour le passé. Et puis, on peut se tourner vers l'avenir. Donc, regardez bien. Verset 9. Purifie-moi avec l'hysope. Il ne parle pas de sa condition, de sa disposition. Il parle de son statut légal. Purifie-moi avec l'hysope, cette plante qu'on trempait dans le sang et on aspergeait, le pécheur, et je serai pur, c'est-à-dire pardonné. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. C'est clair qu'il ne parle pas de ma condition parce que je n'ai jamais passé un jour plus blanc que la neige dans ma condition, dans mes attitudes, dans mon cœur. Mais dans mon statut, oui, je suis plus blanc que la neige. D'accord? On distingue bien les deux choses. Annonce-moi la félicité, la joie et les os que tu as brisés seront dans l'allégresse. Donc, la joie du pardon. Détourne ta face de mes péchés, efface toutes mes fautes, dit David. Et aujourd'hui, nous allons maintenant nous tourner vers la deuxième partie de sa requête. Première partie, le pardon. Deuxième partie, la restauration spirituelle, la rénovation spirituelle. Et nous lisons pour cela les versets 12 à 14. Ô Dieu, mettons-nous à la place de David, qui a tué, qui est loin de son Dieu depuis un an. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint, rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Je voudrais vous parler de trois choses aujourd'hui en essayant de vous aider, de m'aider à vraiment faire face à nos péchés comme il faut, et aujourd'hui, cette partie du changement qu'il nous faut. Le besoin d'être restauré spirituellement, la possibilité d'être restauré spirituellement, et la manière de prier pour être restauré spirituellement. Ok. D'abord, le besoin. Nous pouvons comprendre David. Il sent un besoin criant. Ô Dieu, dis-moi, Dis-lui. Il n'est pas en train de remplir une formalité. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. C'est ce David qui, sur le toit de sa maison, regardait la femme d'une autre, la convoitait, demandait à ses serviteurs d'aller la chercher, a commis l'adultère avec elle, a menti, 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 menti là-dessus, a essayé de couvrir sa faute, a fini par tuer son mari. Et pendant un an, il vit dans une multitude de péchés. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Des désirs mauvais, des pensées mauvaises, des dispositions mauvaises, dans la dissimulation, dans la convoitise, dans l'égoïsme, ça tourne autour de ces choses-là. Ça, c'est David qui n'était pas comme ça. Son cœur ne tournait pas autour de ces choses avant. Son cœur aspirait, désirait aller vers Dieu et sa gloire et l'éternité et la sainteté. Et maintenant, vous savez, quand vous péchez gravement et quand vous péchez longuement, quelque chose vous arrive. Vous vous polluez les désirs et les penchants de vos cœurs. Il y a, chers amis, un effet du péché. Le péché salit. Peut-être vous vous dites, oui, ça je connais, tellement loin maintenant, tellement loin de ce que j'ai ressenti dans le passé. Je n'arrive même pas à ressusciter certains désirs sains que j'avais avant. Mon cœur va vers les choses, le matériel, ou le pouvoir, ou les plaisirs, ou la fuite, ou le... Je ne sais pas quoi, mais peut-être vous voyez que vous-même, votre cœur est endommagé et corrompu par le fait que vous n'avez pas fait face à certains péchés graves et longs. Mais ce n'est pas seulement un besoin, c'est aussi une envie. C'est une envie chez David quand il dit renouvelle, ne retire pas, rends-moi la joie de ton salut. On voit que David, il ne peut plus être satisfait du statu quo, de vivre misérable. Parce que, chers amis, il n'y a personne sur la terre qui est plus misérable qu'un chrétien rétrogradé. Ni le non-chrétien, ni personne d'autre n'est aussi misérable. Parce que le chrétien, il sait ce qu'il devrait être. Il sait ce qu'il était. Il sait ce qu'il a perdu. Imaginez David, qui écrit l'Écriture, qui écrit des psaumes. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Et maintenant, depuis un an, oh, hey, le Seigneur est venu le chercher par Nathan, l'a réveillé, lui a fait comprendre qu'il y a la possibilité de pardon et d'une restauration complète. Complète! Et David, réveillé dans sa conscience, a envie. Il a envie. C'est possible vraiment, Seigneur? C'est comme le fils prodigue, n'est-ce pas? Quand il réalise dans le pays lointain qui est son père, il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Je me lèverai et j'irai vers mon père. David est en train de dire, je me lève et je viens, je reviens enfin vers toi. Ok, donc un besoin, une envie, mais de restauration et de rénovation. Peut-être vous y êtes, vous sentez que mon cœur n'est pas ce qu'il était, et on va parler de ça tout à l'heure. Deuxièmement, la possibilité de restauration. Je suis très content que ce psaume est dans la Bible, parce que pour la plupart de nous, nous n'avons pas péché, pour ainsi dire, aussi gravement, intensément que David. Il a quand même fait tuer le mari de Bathsheba, il a quand même pris sa femme, il a quand même vécu un an comme ça. Et notre Dieu a mis sa prière de restauration, de pardon, de confession dans l'Écriture pour nous. Pour nous montrer la possibilité d'être complètement restauré par Dieu. Et David l'a été. Vous savez la suite de la vie de David? Il a écrit encore des psaumes après, parce qu'il est redevenu proche comme avant de Dieu. Son cœur a bondi de désirs spirituels comme avant. Beaucoup de chrétiens, peut-être vous faites partie de ce nombre, quand ils ont rétrogradé, ils se sentent tellement coupables, quand ils ont péché gravement, ils se sentent tellement indignes que tout ce qu'ils peuvent imaginer retrouver, c'est juste assez de pardon pour ne pas se sentir complètement voué à l'enfer, complètement condamné. Ils ne penseraient jamais que ce serait possible d'être complètement blanchi et complètement rempli de l'Esprit Saint encore et rénové. Mais David est exactement le contraire de vous, si vous êtes comme ça. Et le modèle que Dieu vous donne vous montre que vous êtes sur une mauvaise, mauvaise, mauvaise piste quand vous limitez Dieu. Comme si vous devez, ok, on te pardonne, mais tu ne manges que des miettes qui tombent de la table désormais jusqu'à la fin de ta vie. Ça, c'est le Dieu que vous avez? C'est le Dieu qui, après que Pierre renie le Christ 3 fois au moment de ses souffrances, ce Pierre est tellement restauré que c'est lui qui reçoit le privilège de prêcher le serment de Pentecôte où 3 000 personnes sont converties en un instant. Parce que Dieu est le Dieu qui, quand il restaure à sa façon, dans la mesure de son amour et sa grâce. C'est brillant, c'est splendide, c'est plein de grâce et d'amour. Donc, cette prière de David est un modèle. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais carrément, on pourrait décrire ces 3 versets en disant qu'il prie pour des merveilles. Il prie pour des miracles. Regardez. Il dit au verset 12, « Ô Dieu, crée !» C'est le même mot qu'en Genèse, chapitre 1, dans les premiers versets, « Dieu créa le monde. »« Ô Dieu, crée en moi un corps pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Saint-Esprit, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté, littéralement, que ton esprit de liberté me soutienne. Wow, tu demandes tout ça? Toi qui as tué? Toi qui as pris la femme d'un autre? Quand tu pries, est-ce que tu pries pour être vraiment restauré? Dieu ne veut pas que tu restes dans les bas-fonds de la misère. Quelle gloire est-ce que ça vous donne, ça donne à Dieu que vous soyez à demi pardonné, à demi restauré? Ça ne lui donne aucune gloire. La Bible nous dit, de sorte que comme le péché a régné avec la mort, ainsi la grâce de Dieu règne par la justice pour la vie éternelle par notre Seigneur Jésus-Christ. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Je regarde Saul de Tarse. Sans doute un homme très semblable à Oussama Ben Laden. Je le dis parce que il allait dans des pays lointains pour chercher à tuer des chrétiens. Il dit lui-même qu'il était un homme emporté, meurtrier. Et il nous dit dans son épître à Timothée que Dieu l'a pas seulement pardonné, mais il a tellement exalté que de tous les hommes pécheurs, il est probablement le plus grand qui a jamais vécu. Parlons d'un Dieu qui restaure, qui ne fait pas de demi-pardon. Il fait de Pierre, celui qui prêche le serment de Pentecôte, il fait de Saul, celui qui va au troisième ciel et voit des choses qu'il n'est pas permis de dire aux hommes sur terre. Wow! Qui est Dieu pour qu'il agisse comme ça? Qu'est-ce que nous sommes en train d'apprendre par de telles choses et par une telle prière? C'est que Dieu veut que vous sachiez qu'il y a la possibilité et même la volonté divine d'une complète restauration quand vous péchez, même gravement et même longuement. La grâce de Dieu nous surprend, ça me surprend. Tellement que je suis constamment, j'ai constamment besoin de que Dieu me donne des claques. Parce que j'ai toujours tendance à limiter Dieu, à déshonorer Dieu. On le pense à lui comme si c'était un homme. Il est transcendant, chers amis. Il est transcendant dans sa grâce, dans son amour, dans sa bonté. C'est un autre monde. Dieu nous amène dans un autre monde par sa grâce imméritée. Écoutez ceci. Le prophète Osée, chapitre 14. Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, parce qu'Israël est devenu longuement et gravement idolâtre. Reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu as trébuché par ta faute. Prenez avec vous des paroles. Et revenez à l'Éternel, dites-lui, pardonne toute faute et reçois-nous favorablement. Et maintenant, Dieu, je continue le passage, c'est Dieu qui parle. Je guérirai leur inconstance. J'aurai pour eux un amour généreux. Car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme le lys, il s'enracinera comme le Liban, ses rameaux s'étendront, il aura la magnificence de l'olivier et la senteur de Liban. C'est ça la restauration que Dieu prophétise et prédit et promet. C'est ça. Deuxième passage, Joël chapitre 2. Même chose, même situation, peuple gravement pécheur. Dieu parle et dit, je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Les années dévorées par les châtiments de Dieu. Les années tristes où vous étiez loin, où vous avez perdu, où c'était des années gaspillées spirituellement. Il dit, je vais vous restituer ça. Qu'on dévorait la sauterelle, le grillon, le criquet, la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, le châtiment de Dieu. Vous mangerez, vous vous rassasirez, et vous louerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait des miracles pour vous. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Vous êtes dans la honte? Il y a des chrétiens qui ont péché gravement et ils vivent le reste de leur vie dans la honte. Et Dieu dit, je ne suis pas un Dieu qui laisse mon peuple dans la honte. Je pardonne, je restaure. Je termine en disant, nous avons parlé du besoin et de la possibilité de la restauration, mais comment prier pour la restauration? Et je ne vais pas aller longuement sur ces trois prières de David, ces trois aspects de la prière de David pour être restauré. Mais il faut que nous regardions parce que c'est nous vivions là, c'est notre histoire, c'est nous qui sommes là-dedans. OK? Donc, vous voyez en lisant le passage avec moi que David prie deux, trois choses distinctes. Regardez. Il prie pour la droiture de cœur, OK, un cœur pur. Il prie pour la proximité de Dieu et il prie pour la joie dans les émotions. OK? Le cœur, les rapports, les relations et les émotions. Il voit qu'il a des mauvais désirs et il dit: Dieu, donne-moi la droiture dans mes désirs. Il voit qu'il n'a plus de rapport avec Dieu, alors donne-moi la proximité avec toi. Et il voit qu'il est triste, qu'il n'a plus d'enthousiasme pour Dieu. Et dit, rends-moi la joie de ton salut. D'accord? Et lorsque vous êtes dans cette situation, n'est-ce pas vos trois besoins? Le cœur ne veut plus les bonnes choses, n'est-ce pas? Vous n'êtes plus proche à Dieu relationnellement et vous n'avez plus la joie du salut. Ce sont les trois choses qu'il vous faut. Et moi aussi. Et on doit les demander. Ok, premièrement, priez que Dieu vous transforme, vous transforme moralement en faisant régner la droiture dans votre cœur. Nous lisons le verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Le mot bien disposé, ça veut dire plus ou moins ferme. Une version dit rends-moi le souffle sûr. Un autre dit restaure en ma poitrine un esprit ferme. C'est la fermeté. Parce que quand ton cœur n'est pas ce qu'il était, tu as deux problèmes. Ça court après des mauvaises choses. Et même quand tu arrives à revenir un peu aux bonnes choses, c'est vacillant, c'est inconstant. N'est-ce pas? C'est ça le problème qu'on a. Et il dit, crée en moi, change mes désirs, qu'ils soient des désirs purs, et de manière ferme. David comprend que notre besoin, quand nous avons péché gravement ou longuement, ou les deux, c'est le problème du cœur. C'est pas simplement un problème de recommencer à aller à l'église, de recommencer à lire la Bible, de recommencer à prier, d'arrêter de regarder des mauvaises choses ou de faire certaines mauvaises choses. Ce n'est pas les actes extérieurs qui sont le gros problème. C'est que le cœur y soit dans ce changement, n'est-ce pas? C'est le cœur. Et le problème, c'est que moi, je ne peux pas agir sur mon cœur parce que je suis mon cœur. J'agis surtout avec mon cœur. Mais qui peut agir sur mon cœur? Et c'est pour ça qu'il dit crée. Il faut un miracle aussi grand que la création première. Et donc, je ne sais pas pour vous, mais moi, je dis, Seigneur, je ne sais pas comment ça peut être possible que tu me restaures, parce que je suis tellement froid. Je suis tellement loin. J'essaye. Je n'arrive à rien faire. Ô Dieu, toi, crée en moi un cœur pur. Et là, il y a une réponse. Parce que nous sommes en contact avec Dieu, comme des nécessiteux. Deuxièmement, j'ai dit que j'allais être court, hein, pour ces trois requêtes. Ok. Première chose, c'est que Dieu nous transforme moralement en faisant régner la droiture dans notre cœur. Deuxièmement, priez que Dieu vous transforme relationnellement en rétablissant votre intimité avec lui. Ça, c'est l'idée de proximité. Regardez le verset 13. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Alors, te voilà, toi qui m'écoutes. Tu as péché gravement ou longuement ou les deux. Et tu demandes qu'une seule chose. Rends-moi un cœur pur, la droiture. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Il y a quelque chose de gravement tordu si vous priez comme ça. Mais les chrétiens prient souvent comme ça. Ils pensent qu'à ça. En raison de leur justice de soi. Ils veulent se regarder et être contents d'eux-mêmes. Mais David n'est pas un moraliste. David ne veut pas simplement la droiture de cœur. Et d'ailleurs, il le veut non pas pour lui, mais pour Dieu. Mais il veut Dieu lui-même. Il ne veut pas un changement uniquement moral, mais aussi relationnel. Il dit, ne me rejette pas loin de ta face. Il est comme le fils prodigue. Imaginons le fils prodigue. Alors, il revient à lui-même dans le pays lointain et il dit, j'arrête de faire des bêtises. Je ne vis plus dans la débauche et il reste là dans le pays lointain. Ça va, ça? Ça va pas du tout. S'il va arrêter sa débauche, c'est pour revenir au Père. Il veut connaître l'embrasse du Père encore. Il veut connaître la faveur de son papa, la proximité à son Père, la joie de la famille d'être accepté. C'est là qu'il y a la joie d'être encore avec toi. Et donc, lorsque vous priez, vous priez pour les deux choses. Donne-moi un cœur pur. Et oh Dieu, que je ne sois pas loin. Mais rapproche-moi. David avait vu ce qui s'est passé à Saül, le roi. Saül qui avait eu le Saint-Esprit comme un don. Et Dieu a retiré le Saint-Esprit de Saül. Et c'est pour ça qu'il prie comme ça, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Oh, la présence de l'Esprit en nous, n'est-ce pas? La présence intime de Dieu avec nous, la relation. Oh, d'être encore proche de Dieu. Dieu, je ne peux pas me satisfaire de moins que cela. Et Dieu ne peut pas accepter que vous vous satisfassiez de moins que cela. Est-ce que vous priez comme ça? Dernier point, et nous allons terminer avec ça. Priez que Dieu vous transforme émotionnellement et volitionnellement, excusez-moi de créer un mot, en restaurant la joie du salut et votre enthousiasme pour le servir. Regardez le verset 14. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Un esprit de bonne volonté. Ton esprit libre, de liberté. Une version dit que l'esprit généreux, qu'un esprit généreux me soutienne ou assure en moi un esprit magnanime. C'est-à-dire, moi je ne veux pas revenir simplement pour être un serviteur consciencieux, mais un serviteur affectueux. Je ne veux pas avoir un cœur loyal simplement, mais un cœur brûlant pour toi. Restaure à moi la joie de salut et l'esprit enthousiaste. Mais il faut que nous regardions cette phrase, rends-moi la joie de ton salut. David, comme toi, quand nous avons péché, nous ne voulons pas un salut quelconque, une délivrance, quelle que soit la manière dont ça se passe. Non, moi, quand j'ai péché, moi, je veux que ce soit Dieu, le Dieu de l'univers, qui me pardonne. Lui qui me pardonne, parce qu'il veut me pardonner, et il le fait de sa manière, et il est satisfait, et il est content. C'est son salut qu'il a voulu me donner. Et si je peux avoir ce salut, que c'est lui qui l'a voulu, c'est lui qui m'a cherché, c'est lui qui m'a aimé, c'est lui qui a payé, et c'est lui qui a voulu que je sois tellement blanchi et tellement restauré, alors là, je peux être content. Je peux. Si c'est pour lui-même une joie, n'est-ce pas? Lorsque le prodigue revient, le père est et dans la joie complète. Et reçois, rends-moi, ô Seigneur, la joie de ton salut. La joie d'être pardonné par toi parce que toi tu l'as voulu, à cause de ta grâce et ton amour. Mais pourquoi est-ce que David prie pour cette restauration de joie du salut avec le cœur pur, on comprend bien, hein? Et la proximité de Dieu, on comprend bien. Quelle est l'importance d'avoir une restauration du joie de son salut? Parce que, chers amis chrétiens, pour nous en tant que pécheurs, la vie chrétienne fonctionne comme une réponse joyeuse à un salut complètement immérité, à une grâce et un amour que nous, dont nous ne sommes pas dignes. Ça marche comme une réponse joyeuse au salut de Dieu, ou ça ne marche pas. Il n'y a pas d'autre forme d'une vie chrétienne sauf ça. Et si vous n'avez pas la joie du salut, vous n'avez rien. Regardez comment la vie chrétienne fonctionne, comment le cœur, le moteur qui nous donne envie de servir Dieu. Alors, quand on est ici, dans cet endroit que je vais vous lire, la joie du salut, on y est. Écoutez, ô joie immense, infinie, qui nous remplit chaque jour, joie du salut, hein? Joie éternelle et bénie, qui nous vient du Dieu d'amour. Quel bonheur Dieu nous fait grâce. Il nous offre son pardon. Son secours est efficace. Il nous comble par ses dons. Chantons l'amour insondable, l'amour parfait de Jésus, disant sa grâce ineffable envers nous, pécheurs perdus. Louons sa miséricorde, tous unis et d'un seul cœur. Oui, que notre amour déborde à la gloire du Souverain. Cher ami, si vous n'arrivez pas encore au point d'être joyeux, parce que vous savez que vous êtes complètement pécheur et complètement pardonné, vous n'irez nulle part dans la vie chrétienne. Si vous êtes longtemps dans un endroit, je pense aux avions qui doivent attendre et faire des cercles dans le ciel parce qu'il n'y a pas de place pour l'atterrissage, n'est-ce pas? Ils sont dans un, on dit en anglais, un holding pattern, c'est-à-dire ils sont dans un encerclement d'attente. Et il y a des chrétiens comme ça. Ils sont un peu entre deux. Ils veulent atterrir et revenir au monde chrétien et vivre pour Dieu et connaître Dieu et être proche de Dieu et avoir la joie du salut. Ils ne veulent pas rester là dans l'autre pays où ils ont décollé, le pays de péché, de misère, mais ils n'atterrissent jamais. Ils n'atterrissent jamais. Ils ne reçoivent pas un pardon complet et une restauration parce que les choses sont réglées. Et je vous dirais, dans certains cas, il faut aller faire de la restitution aussi auprès des hommes. Il faut régler des trucs. Mais en disant, j'ai fait ça, je n'ai pas d'excuses, je suis désolé, et je veux vous demander franchement pardon, sans aucune dissimulation, aucune justification. Vous devez faire avec les hommes comme avec Dieu, sinon c'est impossible. Mais prenons pour acquis que vous avez fait ça. Ne restez pas là à faire des cercles. À un moment donné, nous acceptons le pardon. Nous acceptons la restauration. Nous retrouvons la joie du salut. Rends-moi. Ça veut dire que je reviens à l'endroit où j'étais avant. J'atterris. Je dis, ah, c'est là que j'étais. C'est ça que je ressentais avant. Je le ressens de nouveau. Je sais qu'il m'a pardonné. Je sais que je marche avec lui. On ne peut pas se satisfaire de moins que ça. Nous allons prier Dieu. Ô notre Dieu, nous aussi nous devons souvent dire, ô Dieu, crée en nous un cœur pur. Nous rejette loin de ta face. Rends-nous la joie de ton salut, car nous péchons, et parfois gravement et parfois longuement. Et nous te bénissons, Dieu, que tu es notre berger, le berger qui cherche des brebis qui ont constamment tendance à s'égarer et qui l'auront constamment. Mais tu te fais notre berger dans ta grâce. Ô Seigneur Jésus-Christ, ô grand Sauveur, béni soit ton nom. Merci pour cette promesse que nous entendons aujourd'hui d'un pardon et d'une restauration complète. Donne-nous ces choses, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Amen.